Radio Barque, notre 12e, 3e partie avec Didier Mouly. Alors, vous avez entendu et écouté, monsieur le maire, un certain nombre de choses qui vous concernent, c'est le moins qu'on puisse dire. On va y revenir, le côté politique, politicien auquel on n'échappera pas. Mais évidemment, on reviendra aussi sur les projets, puisque c'est ça votre quotidien, notamment quand on est maire. Peut-être quand même ce fameux, alors ces vœux de Gem Narbonne, où il est dit clairement que, bon... C'est l'ambition est légitime en politique, où quelqu'un dit clairement qu'il est intéressé par votre place, en quelque sorte. Hein, c'est faut pour dire les choses clairement. Quelle est votre réaction, Didier Mouly?
Vous avez terminé, Jean-Claude et Michel, sur des vœux présentés par un mouvement. Permettez-moi de présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble de vos éditeurs et de vos collaborateurs. Une bonne et heureuse année 2018, avec la santé en premier pour chacune et chacun de vos auditeurs. Effectivement, c'est la période des vœux. Tout à l'heure, Michel parlait de la trêve des confiseurs qui n'avait pas été respectée par certains politiques. Là aussi, entre eux, ils n'ont pas respecté la trêve des confiseurs et chacun y va de sa candidature. C'est bien dans un débat démocratique de s'annoncer candidat à une élection qui va avoir lieu dans 2 ans ou un petit peu plus, mais en même temps, à condition que ça soit fait avec tout le respect que l'on doit aux autres candidats ou aux personnalités en place. En espèce, c'était juste concomitant avec des propos tenus sur le stationnement à partir du 1er janvier 2018. Et je trouve que Gem Narbonne a fait preuve de populisme en évoquant certains termes qui étaient hors débat, complètement hors débat. Et je trouve que l'exagération ne permet pas d'être crédible. Et ces vœux de Gem Narbonne sont justement dans ce aspect qui ne permet pas d'y apporter une véritable crédibilité. Certes, ils seront candidats, tous, comme vous l'avez bien signalé et précisé. Dans quel ordre, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils seront candidats les uns contre les autres et non pas dans l'intérêt général. Les élections, et Michel le rappelait, les élections présidentielles et législatives ont permis de constater que aujourd'hui, les Français et les Narbonnais en avaient peut-être un peu assez de cette politique politicienne, de ces querelles, et souhaitaient qu'il y ait des personnes qui s'investissent dans leur quotidien pour leur apporter un confort. Un confort sur le pouvoir d'achat, un confort dans le travail, un confort dans les déplacements, un confort dans les loisirs. Et aujourd'hui, ces petites querelles entre politiques, c'est peut-être pas ce qui est souhaité par l'ensemble des habitants de la Narbonnaise. En tout cas, Michel a rappelé les vœux que j'avais formulés à l'égard de la population ou à l'égard du mouvement de Nouveau-Narbonne. Je n'ai pas voulu apparaître comme un pape, loin de moi cette image. J'ai simplement voulu rappeler que Narbonne, aujourd'hui, premier bassin de population et premier bassin économique du département de l'Aude, devait être considéré par l'ensemble des collectivités. On ne peut plus considérer Narbonne comme simplement une ville de campagne, une ville de province. Ça ne veut pas dire que ça deviendra une mégapole, une métropole. Ça veut simplement dire que on doit tous travailler dans l'intérêt des Narbonnais, et uniquement de leur intérêt.
Alors Didier Mouly, à propos de candidature, je crois, en ce qui vous concerne, on est obligé de vous poser la question, vous n'aviez pas caché qu'en 2020, vous serez candidat.
Effectivement, j'ai déjà précisé à la presse locale qui m'avait posé la question qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce que je sois candidat, dans la mesure où il faut être réaliste. L'élection de 2014 était peut-être le résultat d'un vote contre quelque chose qui était en place, et 2020 doit être pour l'ensemble des élus Nouveau-Narbonne la volonté de présenter un bilan positif à l'ensemble des Narbonnais, et que ces Narbonnais disent si ce bilan leur convient et qu'ils veulent le poursuivre ou si au contraire ils préfèrent passer à autre chose.
Alors en ce qui concerne l'œcuménisme entre guillemets que vous souhaitez pour tout le monde, ceux qui insistent aux conseils municipaux mais aussi au conseil d'agglo se rendent compte que c'est le conflit perpétuel que ça soit dans... Et alors évidemment, vous reprochez à Bascou de ne pas jouer le jeu. Bascou reproche à Didier Mouly de ne pas jouer le jeu. Alors on est en train de se demander comment sortir un peu de ce cercle vicieux.
C'est de la politique. Je vais y mettre un grand P à ce mot-là. C'est de la politique. Effectivement, nous avons besoin, Jacques Bascou et moi, d'avoir une image qui soit en conformité avec les fonctions que nous occupons. Mais derrière, il faut quand même que l'ensemble des auditeurs comprennent que on travaille dans l'intérêt du territoire. Je vais prendre un exemple aujourd'hui, les listations, qui est une listation municipale, mais qui sert au centre hospitalier Osmur, est d'intérêt général pour l'ensemble de la Narbonnaise, même un petit peu plus grand que la Narbonnaise elle-même, puisqu'on va jusqu'à Durban, et que l'hélicoptère, il est de conseil départemental, et que la personne qui est intéressée, principalement, c'est l'État avec l'ARS et le centre hospitalier. Donc cette législation, aujourd'hui, a besoin d'être montée en puissance avec un éclairage de nuit, avec des logements pour les pilotes et les techniciens, permettant ainsi un secours aux personnes 24 heures sur 24. La ville seule ne peut pas porter cette modernisation ou cette mise en puissance de ces législations. On s'est rencontré avec Jacques Bascourt, on a fait un courrier commun au département, on a rencontré le préfet, et aujourd'hui, on a tous travaillé en accord pour que cette licitation, dans l'intérêt général des habitants d'un territoire très grand, qui part de des très hautes corbières jusqu'à la Méditerranée, compte tenu de la population que l'on accueille l'été, cette licitation soit améliorée.
Donc c'est un projet qui avance.
C'est un projet qui avance très 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 fortement et très rapidement, puisqu'on en est à la faisabilité technique et financière. Et donc on montre que derrière nos deux personnes, que sont le président de l'agglomération et le maire de Narbonne, il y a quand même un intérêt général qui prime, et on travaille dans l'intérêt de notre territoire.
Oui, alors ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même des dossiers qui, je dirais pas secrètement, mais discrètement avancent, et qui donnent une image totalement inverse des scènes clochemerlesques auxquelles on assiste souvent dans les conseils, soit municipaux, soit communautaires, Michel.
Oui. J'irais même plus loin, en fait, dans ce genre de coopération qui devrait tout simplement se traduire par un transfert de compétences. Quand on entend, en fait, l'exposé des motifs de Dimouille, on se dit, ben voilà, un outil qui devrait être transféré en totalité, bon, à l'institution qui est en charge de ce genre de choses à travers le SDIS, dont le département. Enfin, bon, je ferme la parenthèse rapidement.
Voilà, mais ça
réglerait le problème. Du financement croisé, des négociations compliquées.
Voilà. Mais la décision, c'est pas ici qu'elle se prend.
Bien sûr. Mais autre dossier de Dimouille, parce qu'il me tient pas à cœur, mais qui pose un petit problème. L'articulation entre agglo, en fait, et la ville, le parvis du théâtre. On ne peut pas quand même le laisser comme ça, pas encore très longtemps, on ne va pas attendre un deuxième mandat pour le régler, ce problème.
Alors, le parvis du théâtre est un sujet très visuel et esthétique, et important, parce que c'est vrai que c'est une entrée principale de la ville, on ne peut pas le laisser comme ça. Aujourd'hui, en accord avec la région, la ville travaille sur un terme qui, vous m'avez dit, vous plaisait beaucoup, Michel, un ruban qui va relier l'entrée est de la ville jusqu'à la place Voltaire. Ce ruban, c'est faciliter le déplacement doux des Narbonnais, des visiteurs et des touristes sur cette partie de la Narbonnaise ou de Narbonne, qui est un endroit quand même assez important. La rocade est, entre la route de Narbonne-Plage et la route de Coursan, va se terminer bientôt. La ville a en charge la coulée verte qui va border cette rocade et qui va être un lieu de promenade et de déplacement. Piste cyclable, promenade à pied, beaucoup de verre. Et cette voie verte va déboucher sur un rond-point, je vais l'appeler le rond-point de la Potiche, en tout cas de l'entrée est à l'autoroute. Et il a été envisagé avec les élus de ne pas le faire arrêter là. Et nous allons faire rentrer cette voie verte par la salle des ventes et arriver au début de l'avenue qui permet d'aller à Narbonne, c'est-à-dire jusque à l'endroit du rond-point des colonnes. Et à partir de là, la piste cyclable et le déplacement existent, nous allons construire un déplacement, permettre de se garer facilement, la voie sera reconsidérée dans son ensemble, se garer au Murena proche du Murena, partir éventuellement du Murena à pied par les quais, alors quais proprement dit, c'est-à-dire le chemin de halage et les quais qui sont au-dessus, par le théâtre, le quai Victor Hugo jusqu'au centre-ville, améliorer le déplacement par la place des Quatre Fontaines, la rue de la Parorie, le parking de Bourg qui va être reconsidéré aussi, et la place Voltaire. C'est une déambulation qui s'impose non seulement aux Narbonnais, mais aux touristes, puisque un touriste qui va aller visiter le palais des archevêques, le cloître ou l'église Saint-Just a vocation à aller très rapidement, puisque ça fait pas une grande distance, jusqu'au Murena et inversement, bien entendu. Voilà, donc... Ce travail est actuellement en cours puisque un architecte paysagiste a été missionné par la ville. La région a elle-même ses propres services qui travaillent en collaboration avec la ville. Et je pense que, alors ça se fera par phase et par tronçon, mais nous arriverons à avoir un beau déplacement doux en intérieur de la ville.
Voilà un projet donc intéressant et qui se concrétise. Alors, parmi des projets, il y en a d'autres importants qui donnent matière à polémique. C'est pas, on va y revenir, mais il semblerait aux toutes dernières nouvelles, je ne sais pas, que vous ayez l'intention de transformer l'aspirateur en hôtel de police municipale. Est-ce que c'est vrai?
Effectivement, hier à la présentation
des
vœux.
Ça a été dit.
Ouais. C'était, mais c'est une réalité. Hier à la présentation des vœux au personnel, le directeur général des services l'a rappelé. L'année 2017 a été une année de grands changements dans les conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des agents de la collectivité, que ça soit par la titularisation de certaines personnes au CCAS, que ça soit le changement de locaux pour certains services, comme le CCAS qui est passé à l'ancien immeuble pour l'emploi, comme la culture ou les finances qui sont allées se retrouver dans des locaux différents. Donc nous voulons améliorer les conditions de travail de l'ensemble des policiers municipaux, tant de la partie administrative que la partie policier proprement dit.
Ouais. Mais alors cet aspirateur n'a pas du tout été conçu, c'est des travaux gigantesques à faire, non? Est-ce qu'il y a un avant-projet bien avancé à ce niveau-là?
Le projet est bien avancé, tant financièrement que techniquement. Ne me demandez pas les chiffres parce que j'ai pas la mémoire des chiffres, mais le budget n'est pas énorme à faire. Certes, c'est un bâtiment industriel, mais l'aménagement de ce bâtiment va permettre d'avoir un accueil d'abord du public au sein des du commissariat de police municipal de qualité, des conditions de travail, puisque aujourd'hui, quand même, on a une mixité dans les... agents, qui fait qu'on doit avoir des vestiaires pour les femmes, des vestiaires pour les hommes, des salles de repos, des salles de convivialité pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux entre les périodes de service. Nous ne pouvons pas apporter tout cela rue Gustave Farbe dans l'immeuble ancien qu'il y a, mais ce sont deux immeubles à coller et c'est très difficile. Ça serait très difficile et beaucoup plus coûteux. Par contre, en cédant l'actuel bâtiment de la rue Gustave Farbe à un promoteur immobilier qui va revitaliser, remettre aujourd'hui, puisque nous sommes dans un secteur sauvegardé, avec un immeuble qui a une belle architecture.
Et qui est juste en face à la cathédrale.
En face à la cathédrale, donner à cet immeuble des logements de qualité. Je pense que comme celui de l'immeuble de la place de Verdun, ou comme celui du boulevard Général de Gaulle qui est en train de se réhabiliter, donner à cet immeuble un autre cachet, avec une population qui viendra y habiter et résider. La police municipale aura des locaux à l'aspirateur qui ne dégraderont pas du tout le bâtiment, qui, même si c'est un bâtiment industriel, a un certain cachet architectural et dont l'esthétique est pas mal, et se confondra très bien. En plus, c'est un nouveau quartier où nous avons une forte population qui va arriver compte tenu des actes des berges de la Roubine, de cet immense projet des actes de la berge de la Roubine, avec les quartiers préexistants qui sont quartier Horteneuve, quartier de Légassière, etc. Je pense que l'accessibilité pour tous à ce centre de police municipale sera facile, et puis même pour nos agents, leurs conditions de travail font tenir compte. Ils sont au quotidien des narbonnés, pas des plus aimables ou gentils, et il faut aussi leur apporter un petit confort dans leur travail.
Alors à propos justement de la ZAC de la Robine, il y a une découverte toute récente qui s'est faite, ce sont des tombes romaines. Qu'en savez-vous aujourd'hui et que pensez-vous qu'il va en advenir, Didier Mouly?
J'ai été, il y a Michel Santo qui en sourit, mais j'ai été invité par Alenis et LRA, qui sont les promoteurs de cette ZAC des berges à Robine, à visiter le chantier. Malheureusement, l'emploi du temps professionnel notamment ne me permettait pas de pouvoir m'y rendre. La directrice de la culture, Mme Cervanton, y est allée, à mes lieux et places, et effectivement, cette découverte est très importante. C'est une propriété privée, puisque la ville avait acheté les terrains et les a cédés à LRA et à Lénis. Aujourd'hui, il y a un projet immobilier qui est dessus. C'est aux portes du Murena. Ça a un lien direct avec les expositions qui se feront à l'intérieur du Murena. Quel est celui des opérateurs sur la romanité qui a la possibilité de, aujourd'hui, s'accaparer ce bien et le mettre en valeur? Je vais prendre l'exemple, et nous en avons échangé un petit peu là-dessus déjà, du Clos à la Lombarde. Aujourd'hui, le Clos à la Lombarde est une difficulté administrative de gestion et de protection. Au départ, l'État achète ce terrain et doit y faire l'immeuble de la sécurité sociale. Au moment où on va dans les fouilles qui vont être faites avant la réalisation du projet, découvrir quelque chose d'exceptionnel.
Et il y a 40 ans de cela, précisons-le.
Il y a 40 ans de cela. Oui.
40 ans.
Et depuis 40 ans, l'État, à part un bail amphithéotique, a donné à la ville la possibilité de continuer les recherches en fonction des programmes de fouilles qui existent. Et la ville a concédé à deux associations la gestion, si vous me permettez ce terme, de découvrir ce qui existe, de faire les recherches historiques qui vont avec, et en même temps de faire de la pédagogie en montrant aux écoles et au public et aux touristes la qualité. Mais personne ne veut aujourd'hui accompagner ce projet qu'il faut protéger des intempéries et qu'il faut mettre en valeur avec les nouveaux moyens techniques que l'on peut avoir. Parce que ce coût, personne n'envisage d'en supporter le montant dans ses budgets. Cette découverte qu'il y a à côté du Mérena sur les terres des berges à la Roubine, est-ce que
ça vous rappelle cette situation?
Ça me rappelle exactement cette situation. Est-ce qu'une des collectivités va dire « je franchis le pas et je le prends en charge » ? La question est là. Je regretterais que on recouvre tout ça tout en le protégeant, tout en faisant les relevés nécessaires, qu'on le protège du regard. En même temps, il y a un équilibre économique qui doit se faire sur la ZAC, et je comprends très bien les aménageurs de dire « on ne peut pas le laisser comme ça ». Je pense que l'État, qui a la possibilité de mettre autour de lui l'ensemble des collectivités, saura réunir tout le monde pour qu'un choix pour l'avenir historique, pour l'avenir de comprendre nos origines, puisse se faire au mieux des intérêts de chacun.
Alors Didier Mouly, un gros morceau, on finira peut-être par ça d'ailleurs, la salle multimodale, donc on sait qu'elle est très polémique, qu'elle vous vaut un certain nombre de remarques, parfois désobligeantes, de l'opposition, ça n'est pas surprenant, mais de la part de certains citoyens. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puisqu'il y a eu des recours, il y a eu des retards? Pouvez-vous faire une petite synthèse, un tableau de ce que l'avenir nous réserve pour cette salle multimodale à l'endroit où vous la prévoyez, c'est-à-dire sur un coin du stade du Parc des Sports et de l'Égacirale?
Merci de me poser cette question, Jean-Claude. Je ne veux pas mélanger les rôles que nous avons chacun de part et d'autre du micro, mais vous le savez, ensemble, nous avons réfléchi avant 2014 sur la possibilité d'apporter à Narbonne un investissement qui lui permette... Alors, je sais que Michel n'aime pas le mot structurant, mais un investissement structurant, je le dis quand même, je peux le dire, un investissement
non,
qui...
Non, le caractère structurant tel qu'il est, je ne le conteste pas, je conteste là, comment dirais-je, l'opportunité de le faire, celui-là, dans les conditions, effectivement, où
ah, d'accord. Donc cet investissement, nous l'avions travaillé avant d'être élu. En étant élu, je ne veux pas reprendre les propos du président de la République. Nous avons fait un programme, c'est dans le programme, nous allons le réaliser.
Effectivement, vous avez beau jeu de le rappeler au quotidien.
Mais pourquoi aujourd'hui, quel que soit le partage de la population sur le oui ou sur le non par rapport à la salle, nous ne pouvons pas l'arrêter. Économiquement, si nous le stoppions, ça serait dramatique pour les finances de tout le monde, puisqu'il y a quand même un groupement qui a été retenu et qu'il y a déjà des études qui ont été faites et que le permis a été déposé. Donc, aujourd'hui, cette salle, les élus ne peuvent que dire « on va aller jusqu'au bout », sauf si l'État ou la justice y mettait un terme. Elle s'avère, cette salle, peut-être pas indispensable, mais en tout cas très, très utile aux loisirs, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient culturels et même éventuellement économiques pour la ville. Y renoncer aujourd'hui serait méconnaître les besoins effectifs de l'ensemble de notre ville et de ses habitants. Je pense que c'est un plus pour l'attractivité de la ville, c'est un plus pour... Alors je ne vais pas trop prendre tous les détails et exemples que l'on prend habituellement, mais je vous assure que ça sera un plus. On n'a pas de salle aujourd'hui plus importante que 900 places, ce sont les places du théâtre. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait quelque chose de plus. Et la dimension de 5 000 places assis debout, avec 3 500 maximum assis et le reste debout, est quelque chose de raisonnable.
Voilà, y compris le prix qui a connu une certaine inflation, comme c'est souvent le cas dans ces chantiers.
Pas pour le moment, puisque nous avons un contrat de conception-réalisation qui bloque le prix. Il ne sera pas exponentiel. On n'aura pas un prix de construction plus élevé que celui qui a été décidé en conseil municipal.
Voilà. Donc, en tout cas, Didier Mouly, vous confirmez bien, n'en déplaise à Michel Santo, que le projet est bien sur les rails, qu'il avance et qu'il risque de, enfin, qu'il aboutira probablement.
Je pense que Michel, c'est, est-ce qu'on avait besoin de réaliser ça aujourd'hui?
Non, dans les conditions où cela a été fait, moi je suis de ceux qui prétendent que là, il fallait, pour ce genre d'opération qui a un caractère structurant, il est vrai, tout ce genre d'équipements ont été créés et gérés par des intercommunalités. Je n'en connais aucun.
Renonce pas à faire appel à l'agglomération pour qu'elle vienne à nos côtés participer, peut-être pas à sa réalisation puisque nous l'avons budgété, mais en tout cas son fonctionnement.
Alors ça c'est un autre débat sur lequel il faudra revenir une autre fois parce que ça nous mènerait très loin.
Michel et Jean-Claude, je vous assure, c'est un plaisir pour moi d'être venu aujourd'hui et ça sera un plaisir d'y revenir.
Eh bien, merci Didier Mouly. Nos prochains invités, ce sera, on va rester avec des maires de la Narbonnaise, Michel Py, Monsieur Saint-Cluc sera là prochainement également, Monsieur Bascou, Monsieur Codorniou également, qui est maire de Gruissant et, rappelons-le, depuis quelque temps, premier vice-président de la région Occitanie. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.